Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre, qui est là en temps de crise, on se le cache pas, c'est historique ce qui se passe, et on est là pour vous éclairer, pour vous donner, vous informer, mais également vous donner des trucs. Et aujourd'hui, justement, on commence avec le bâtonnier du Québec, Maître Paul Mathieu Grondin. Il vient nous parler de la clinique juridique qui est en ce moment en vigueur. Les gens peuvent appeler pour poser des questions. Et non, il n'y a pas seulement un avocat à la barre qui répond aux questions juridiques, mais la clinique juridique du barreau, on en parle avec lui. Ensuite, Maître Rita Maglonet Francis qui nous parle des prisonniers et la crise de la COVID-19. Ensuite de ça, Cathy Tétrault, les jeunes et la crise de la COVID-19. Et pour finir, Maître Jean-Paul Boily, la fameuse loi sur la quarantaine, les droits et libertés qui sont diminués. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on est rendu à donner des amendes, que la police puisse arrêter des gens? On en parle dans quelques minutes. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
Durant cette crise sans précédent de la COVID-19, les gens, je veux dire, oui, on se pose beaucoup de questions sur tout ce qui est médical, la contagion, comment ça fonctionne, les actions du gouvernement, mais également beaucoup de gens dans la détresse, du questionnement sur toutes sortes de droits qui nous touchent. On peut penser au travail, à l'administration, si on a des dossiers en cours au pénal, au criminel. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent et le Barreau du Québec a mis en place une clinique durant la crise pour justement répondre à vos questions. Vous pouvez avoir accès à un avocat pendant 15 minutes, lui poser les questions. Et on en parle avec Paul Mathieu Grondin, le bâtonnier du Québec. Bonjour, Maître Grondin.
Bonjour, François-David, ça va bien?
Ça va très bien, merci d'être avec nous. Donc, cette clinique-là, je dirais le numéro un peu plus tard, là, mais ça a été mis sur pied pourquoi, là?
Bon, en gros, quand la pandémie a commencé à frapper, je pense que tous les Québécois ont senti un immédiat désir de participer au bien-être collectif et à la bataille à laquelle on s'apprêtait à participer. Et puis, bon, tout le monde participe à la mesure de sa détermination, de ses talents. Puis, les avocats, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ben, ça conseille les gens. Donc, nous, c'était important pour nous. On savait qu'il allait y avoir beaucoup, beaucoup de questions qui allaient s'en venir. On savait qu'il allait y avoir beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes en matière juridique. Puis là, ben, on a envoyé un signal à tous nos avocats en leur demandant si vous voulez participer à une clinique juridique comme ça pour informer les gens des conséquences de cette pandémie-là. Et puis, ils ont répondu présent là, en nombre ahurissant. Mm-hmm. Donc, on est très fiers d'eux. Puis la ministre de la Justice est embarquée dans le projet aussi. Donc, merci à elle pour ça. Puis on l'a mis rapidement sur pied. Puis comme tout le monde est un petit peu confiné chez eux, ben c'est une clinique qui est à distance. Hein. Donc les avocats, ils recevaient une petite boîte en carton avec un téléphone IP dedans. Puis ils se font puis un dispatch, là, des appels qui se passent. Et puis ils reçoivent des questions selon leur domaine de pratique. Donc c'est comme ça que ça s'est passé.
OK, donc c'est ça, vive la téléphonie IP parce qu'on peut rediriger les appels vers les avocats là, sans justement qu'il y ait une centrale ou un lieu commun. Là. Donc, ça se fait à la maison. D'ailleurs, je vais tout de suite le dire, le numéro général là, pour ceux qui écoutent, qui ont des questions, c'est le 1-866-699-9729. Sinon, bien, sur le site du Barreau, sur le Facebook, vous pouvez aller voir, vous allez le trouver, c'est facilement trouvable. Et Maître Grondin, les gens peuvent poser des questions sur tout là, en droit, là.
Absolument. Puis, je dirais, comme vous en doutez, là, les questions les plus importantes, c'est quoi? C'est les questions en droit du travail, donc mon emploi. J'ai perdu mon emploi, j'ai été mis à pied, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de questions aussi sur les mesures économiques qui ont été annoncées. Donc, à quoi j'ai droit? À quel programme? Je peux m'inscrire. Le 2 000 $ par mois, est-ce qu'il est pour moi? Est-ce qu'il est pas pour moi? Et puis aussi en matière de logement, je vous dirais, le premier du mois arrive, donc là, les gens se disent, est-ce qu'il faut que je paye mon loyer? Est-ce qu'il faut pas que je paye mon loyer? Comment ça se passe? Ça aussi. Donc ça, c'est, je vous dirais, les questions principales. Il y a bien sûr des questions de gens qui sont à l'étranger aussi, qui essaient de revenir. Donc, on se fait poser beaucoup de questions, puis les avocats deviennent, évidemment, ils apprennent vite aussi parce que eux aussi ont évolué dans ce domaine-là où les choses changent rapidement, mais on voit clairement les filons de questions les plus importantes.
Oui, je comprends. Puis, déjà, il y a une bonne réponse. Je veux dire, les gens doivent appeler pas mal, là.
Absolument, ça appelle beaucoup. Puis au début, c'est ça, on essayait de voir quelles questions il y aurait le plus. Ça s'est rapidement dirigé là, vers le droit du travail, droit de l'emploi, logement, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui appellent. Et puis, je vous dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas trop d'attente sur la ligne parce que les avocats ont répondu en grand nombre aussi. On essaie de garder les consultations à peu près à 15 minutes, 20 minutes. C'est certain que les avocats qui sont là qui répondent, ils prendront pas le dossier au complet en charge pour vous là, mais ils vous aiguillent dans la bonne direction. Puis habituellement, un appel comme ça là, c'est bon pour rassurer les gens puis les envoyer dans la bonne direction.
Ouais, pis c'est ça, faut comprendre, c'est ça. Il prend pas le dossier, il va aller en surface, aiguiller, donner des conseils. Puis les gens, faut pas qu'ils soient gênés d'appeler là. Il y a une bonne accueil quand on appelle, puis on est à l'écoute. Là.
Absolument. Puis souvent, c'est même des avocats qui répondent au départ parce que un des défis qu'on a avec cette clinique-là, c'est de les envoyer au bon avocat dans la bonne matière. Donc, des fois, c'est des avocats même qui répondent pour faire le dispatch, puis ils sont capables de répondre à des questions dès le départ. Donc, c'est il y a absolument un bon accueil pour ça. Puis en ce moment, je vous dirais, tout le monde est dans une situation qui est à laquelle ils ne s'attendaient pas nécessairement. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. On est là pour ça. On est là pour vous, puis les avocats, c'est une profession, des fois, on casse ça un peu sur le dos des avocats, mais c'est une profession qui a une conscience sociale importante, puis je pense qu'elle est à la pleine vue de tous en ce moment-là.
Ben oui, puis c'est bien dit, les gens aussi, l'avocat est là pour aider, pour guider. Et d'ailleurs, je sais pas si déjà vous avez des retours de certains avocats. Je sais que dans la pratique, des fois on le dit à la blague, l'avocat c'est un psychologue, des fois à la base, doit écouter, doit comprendre. Les gens doivent vivre une certaine détresse, là.
Absolument, c'est un excellent point. Puis c'est ça. Donc la première approche, c'est vraiment l'approche la plus humaine. C'est important de comprendre ça à travers quoi les gens passent. Les avocats, ils comprennent bien, ils ont vu des situations où les gens parlaient de leurs emplois avant. Puis ils l'expliquent à des gens qui sont certainement pas habitués à ça. Donc il y a cette faut qu'on fasse ces ajustements là. Mais je vous dirais, avec le temps, les gens comprennent de mieux en mieux ce qui se passe, puis je sens une confiance et une résilience chez les gens qui appellent à la clinique.
OK, c'est bien dit, c'est agréable d'entendre ça. Et Maître Grondin, pour rassurer ceux qui veulent appeler aussi, c'est important de rappeler tous ces appels là sont confidentiels. Je veux dire, il y a donc quelqu'un peut dire n'importe quoi. Je veux dire, il y a un devoir de confidentialité de l'avocat, là.
Absolument. Puis faites bien de le rappeler, hein. Puis moi, le premier, puis surtout les avocats, on prend toujours pour acquis que ce qu'on dit à un client, puisque ben surtout ce que le client nous dit, en fait, est confidentiel, puis que qui possède le secret professionnel, me fait très bien de le rappeler. Donc oui, absolument. Quand vous appelez dans la clinique, ce que vous dites, c'est confidentiel, personne ne va le savoir, pour votre employé, pour votre employeur, pour votre locataire, donc c'est confidentiel à 100%, puis il faut, vous avez raison, il faut rassurer les gens à ce sujet-là.
Oui, mais c'est important de le dire, parce que des fois, pour ceux qui disent « Ah, j'appellerai pas, je veux pas me confier », c'est confidentiel. Ceci étant dit, bon, cette clinique-là mise sur pied, vous devez être quelqu'un de très occupé en ce moment, parce qu'il y a un autre aspect aussi, c'est que en ce moment, bon, les cabinets d'avocats ont été, grâce à votre intervention, déterminés comme des services essentiels. Évidemment, la justice ne doit pas dormir. Malgré la crise, les gens ont le droit à un avocat. Vous devez évoluer en ce moment, là, je veux dire, tout ce qui est distance, le barreau, toute la procédure en tant que telle.
Oui, bien, ce qui est en train de se passer, là, c'est une informatisation de la justice à vitesse grand V. Donc, maintenant, on dit, bon, ben, il va falloir qu'il se passe de la justice encore, il va falloir qu'on tranche des dossiers. on peut pas trop remettre les dossiers à plus tard. Comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas tous, quand on peut pas tous être au même endroit dans le palais de justice? Puis je vous dirais que il y a des belles nouvelles à ce sujet-là. Le ministère de la Justice travaille très, très fort. Est-ce qu'il peut se passer des auditions entièrement en ligne? Quelqu'un qui se promènerait sur une rue pourrait témoigner à partir de son téléphone cellulaire en vidéoconférence. Donc, je veux dire, on y va très, très loin, très, très rapidement. Ça change les habitudes. Puis il faut le faire, on n'a pas le choix. Puis au final, ça va être, il va en sortir quelque chose de bien pour la justice. J'en suis convaincu. Pour l'instant, c'est seulement les matières urgentes là, qui procèdent. Je vous dirais probablement surtout en matière familiale, en matière de garde, etc. Mais à un moment donné, il va falloir repartir à la justice parce que c'est quand même un des piliers de l'économie, de, si vous voulez. Il faut savoir que quand on a un contrat, il peut s'être tranché à un certain moment donné par les tribunaux. Ça aide à la stabilité judiciaire. Donc ça on s'entend que ça s'en vient, puis ça s'en vient très rapidement. Ça va changer les habitudes, puis qu'on puisse faire des procès par la visioconférence, mais tant mieux.
Oui, ben c'est ça, des procès visioconférence, parce que c'est sûr, pour le dire aux auditeurs, en droit, on a beaucoup souvent, surtout en droit criminel, à se déplacer à la cour, puis là, on sent justement, ben d'ailleurs, je vais dire, j'ai réussi à faire une remise dans un dossier sans me présenter en droit criminel, et ça, c'est très, très rare que ça arrive. Donc, c'est ça, on sent qu'il y a des moyens qui sont pris, vu la difficulté de la distance, la COVID-19, mais cette évolution-là, dans le fond, il y a tout le temps dans ces crises-là, on cherche le positif. Ça pourrait être du positif, là, de faire évoluer plus rapidement le droit. Déjà, en 2016, c'est ça, on avait évolué parce que, exemple, on a pu signifier par courriel toutes les techniques, informatiques qui sont de plus en plus en vue pour le droit, là.
Ben oui, absolument. Puis vous et moi, on est pas très très vieux, mais on a connu l'époque du fax. Alors
oui.
ça faut se le dire. Pour moi, ça devrait pas être vu comme une grande évolution qu'on puisse signifier là, ou des choses par courriel. Mais moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à côté de l'imprimante et on attendait que le jugement s'imprime là, par fax. Donc heureusement, on est en train de faire un grand bond très rapide. Moi, je suis très heureux de voir ça. Évidemment, faut savoir que on est dans un contexte de pandémie. Les gens ont la vie dure en ce moment. On pourra reconnaître ça. Puis on pourra faire un bilan après. Mais je suis sûr que du côté de la justice, il va y avoir un avant-COVID et un après.
Et un après. Et d'ailleurs, Matt Grondin, aussi, vous devez gérer toute la profession également parce que c'est pas évident de s'ajuster. Puis en arrière, ben, des avocats, il y a des humains. Puis vous devez avoir des témoignages que c'est pas facile non plus pour eux, là.
Absolument. Ben les avocats, c'est comme c'est assez simple, hein, comme mode d'entreprise. C'est donc il y a des clients où il y en a pas, puis il y a des revenus où il y en a pas, puis il y a des dépenses. Donc évidemment, une chute importante de revenus, ça mène à certaines pratiques en péril. Là, ça faut le dire très certainement. Puis comme il y a beaucoup de Québécois qui souffrent en ce moment, puis qui ont de la difficulté. Il y a beaucoup d'entreprises d'avocats aussi qui sont dans une position qui est similaire. Puis ça, il n'y a pas de cachette là-dessus. Là,
c'est ça. Ça frappe tout le monde. Ben oui, ça frappe tout le monde. Et c'est tout le temps qu'on avait, mais très intéressant. Merci, Paul-Mathieu Grondin, bâtonnier du Québec. Et continuez votre bon travail parce que vous faites comme le premier ministre Legault. Vous gérez et continuez ça, c'est apprécié. Je vous souhaite une belle journée.
Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Bye-bye.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
La COVID-19, ça nous touche toutes. Il y a toutes sortes de mondes impliqués. Et il y a un domaine qu'il faut en parler. Il y en a qui vont dire qu'ils ne seront pas intéressés à ça, mais c'est très important d'en parler. Le milieu carcéral, on sait qu'il y a des gens qui sont détenus et c'est des milieux fermés. Qu'est-ce qui arrive si un détenu est infecté? Comment on réussit à gérer cette propagation-là? On le sait, dans la communauté, on préconise la distanciation sociale, mais comment on fait? On en parle avec Rita Magloé-Francis. C'est Maître Rita, pardon, Magloé-Francis, qui est présidente de l'Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un don. Comment ça fonctionne? C'est quoi vos craintes en ce moment avec la COVID-19?
Ben, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que tant au niveau des prisons provinciales que des pénitenciers fédéraux, tous les détenus sont dans un état vraiment de crainte. Ils ont des réelles craintes, compte tenu comme on le sait, il y a des officiers, des gardiens qui sont allés en vacances durant la semaine de relâche et qui ont eu des contacts avec des prisonniers avant que les mesures de confinement soient obligatoires ou soient en fait facultatives pour certains. Mais les détenus ont vraiment peur que les officiers apportent le virus en détention d'abord.
C'est ça, en détention, parce que c'est un milieu fermé, donc c'est la crainte. Une fois que le virus arrive, on s'attend à une propagation assez rapide là, avec les détenus. Là. C'est dur de les isoler.
Bien, en fait, là, en ce moment, il y a des secteurs, des prisons, puis certains pénitenciers qui ont commencé à faire du confinement parce qu'il y avait des cas suspects. Mais c'est certain que dans les prisons, par exemple, provinciales, il y a beaucoup d'insalubrité. Les gens sont très près l'un de l'autre. C'est certain que les mesures de distanciation sociale sont impossibles à appliquer. Mm-hmm. Dans les prisons, dans les pénitenciers fédéraux, ça diffère d'un pénitencier à l'autre, mais il y a encore des pénitenciers, en fait, un pénitencier au Québec, un pénitencier à Chambault, où il y a encore des cellules doubles. Alors, ce sont deux dans la même cellule. Pour certains, c'est impossible d'appliquer les mesures de distanciation.
OK. Et que ce soit dans un pénitencier fédéral ou provincial, on sait que les pénitenciers fédéraux sont mieux adaptés, je pense, pour les gens qui sont là à long terme. Mais est-ce que ils se réunissent? Je veux dire, ils mangent à la même place? Comment ça fonctionne?
Ben, je veux juste vous reprendre, vous dites que c'est mieux en fait organisé au fédéral. Ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est que le fédéral était toujours en retard dans les mesures. Les prisons provinciales ont adopté des mesures dans les prisons. Et par exemple, quand ils ont coupé les visites familiales, les visites d'avocats, le provincial a adopté des mesures beaucoup plus rapidement que les pénitenciers. Bon. Alors, c'est pas parce que c'est fédéral que c'est... Parce que oui, les peines sont plus longues, il y a peut-être moins d'insalubrité que dans les prisons provinciales. Dans les prisons provinciales, surtout, des fois, ça rentre et ça sort. Il y a aussi des itinérants qui ont des courtes peines.
On va faire la blague, c'est comme le Québec a agi plus vite que le fédéral aussi, mais on comprend bien que c'est ça, c'est pas parce que c'est fédéral que c'est nécessairement plus adéquat. Mais comment ça fonctionne à l'intérieur des murs, les détenus, là, je veux dire, ils ont des cellules, comme vous dites, il y en a qui sont deux encore, sinon ils sont isolés. Est-ce qu'on peut seulement décider de les laisser dans leurs cellules et de leur apporter la nourriture ou?
Mais en ce moment même, il y a certaines prisons, certains pénitenciers qui adoptent des mesures de confinement, c'est-à-dire que les prisonniers sont dans leur cellule 22 heures sur 24. Mais je vous avoue, bien humblement, je ne sais pas pendant combien de temps ils vont pouvoir garder des détenus enfermés 22 heures sur 24 sur de longs des semaines et des semaines, parce que la Cour suprême a jugé que c'était cruel et inusité de garder des détenus 24 heures sur 24 pendant une longue période.
J'imagine, c'est comme le trou qu'on appelle. D'isoler.
Pratiquement comme le trou. Oui.
Ben oui.
Puis bon, il y a des gens qui peut-être qui trouvent ça long en ce moment d'être confinés à la maison, là, mais imaginez dans une cellule où on a en fait pratiquement on n'a pas de cellulaire, on n'a pas Internet, on n'a pas parfois on a une petite télé avec des postes, mais on n'a pas de contact avec notre famille, ni par téléphone, ni on est seul, là. Le temps est très long. Là. C'est horrible. Là.
Non, c'est ça. C'est pour que la Cour suprême dise c'est cruel, inusité. Pour nos auditeurs, là, ceux qui pensent c'est comme être là à la maison puis que chacun fait son effort à la maison, oui, on comprend, mais les gens peuvent sortir et c'est déjà difficile à la maison. Mais là, on parle de garder quelqu'un dans une pièce close là, pendant des heures, on comprend bien.
C'est pour ça, si vous me permettez, c'est pour ça que mon association et plusieurs associations appelle, en fait, interpelle le gouvernement pour qu'il adopte des mesures plus radicales, comme certains pays l'ont fait, c'est-à-dire libérer massivement par anticipation certains détenus qui remplissaient certains critères. Des pays, on l'a vu aujourd'hui, des pays comme l'Afghanistan l'ont fait, en Europe, il y a certains pays qui l'ont fait, aux États-Unis, ça comme ils ont, certains États l'ont fait. Nous, c'est on a pris position, notre association, que c'était la mesure, une mesure que le gouvernement devrait étudier de manière urgente avant que le virus
se propage.
Qu'on trouve des cas et que ça se propage comme une traînée de poudre. Là.
OK, donc je comprends bien, c'est ça. En prévention et dans le cas que ça s'aggrave, une des solutions, bon, on comprend, bon, de confiner les gens dans leurs cellules, mais c'est aussi de libérer certains détenus, parce qu'on ne peut pas libérer n'importe qui, là, si je comprends bien. Là.
Non, évidemment, on peut pas libérer des criminels dangereux, mais il y a certainement certains... c'est très facile d'adopter certains critères qui permettraient de libérer des détenus, par exemple, des détenus qui ont plus que 70 ans, des détenus qui ont des maladies chroniques, des détenus qui, de toute façon, seraient mis en liberté dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Les détenus qui ont des profils de personnes non violentes ou des détenus qui ont démontré par le passé qu'ils ont respecté des conditions de remise en liberté, ça serait très facile d'établir des critères qui permettraient de libérer libérer des détenus sans mettre en danger effectivement la sécurité publique, parce que c'est pas ça qu'on veut.
C'est pour ça que c'est important de le dire à nos auditeurs, c'est pas de libérer des gens puis de mettre en danger, là. Ça serait fait d'une manière adéquate. Et c'est certain qu'on se cachera pas qu'il y en a qui ont pas de sympathie pour les détenus, mais ils ont des droits. Et imaginez quelqu'un qui a fait une erreur de parcours dans sa vie, qui purge sa peine et qui paye sa dette à la société. C'est pas une raison non plus de la laisser enfermer puis qu'il y ait des morts en prison parce qu'on fait rien, là, dans le fond.
Non, mais c'est aussi une mesure. Je suis bien consciente que c'est pas nécessairement une mesure qui est sympathique, mais c'est une mesure de santé publique générale. Parce que de toute façon, si je prends l'exemple d'un détenu qui, de toute façon, serait libéré dans un mois, ben on va le libérer peut-être au pire de la pandémie, alors que peut-être il aurait été en contact avec le virus en prison. Et là, on le libère et il pourrait infecter des gens à sa sortie de prison. Là.
Ouais.
C'est vraiment dans un but préventif pour la santé de tous et la santé aussi des personnes, des gardiens du personnel du service correctionnel aussi. Là. C'est certain que si on libère une rangée de prison qui est surpeuplée, si on libère une partie de cette population carcérale-là, ça va être plus facile d'assurer une distance entre les détenus. Là.
Et les gens vont se poser la question, est-ce qu'une fois qu'on les a libérés, quand c'est fini, est-ce qu'ils retournent en prison ou est-ce qu'il y a un risque que des gens fuient?
Ben, en fait, ça dépend. Comme je dis, l'exemple que je donne, si la personne, de toute façon, serait libérée dans deux mois,
c'est ça.
Ben, quand deux mois, ça va être fini,
c'est ça. C'est devancer certaines libérations. Et on va y aller sur le côté un peu plus humain. Là. Vous avez, les détenus sont vraiment inquiets. Là. Vous êtes, comme on dit, vous avez beaucoup d'appels. Là.
Oui, puis là aussi, aujourd'hui... le journal rapporte qu'il y aurait un agent correctionnel du pénitencier Port-Cartier qui a testé positif à la COVID-19. Mais même avant ce cas dans les médias, c'est certain que nous, les avocats, on a eu beaucoup, beaucoup d'appels de crainte parce que, bon, évidemment, en prison, on leur donne pas accès à du liquide désinfectant pour les mains. Ils ont du savon, mais ils peuvent pas se désinfecter. Les endroits où ils mangent sont pas désinfectés. Donc, en fait, on n'a pas tout désinfecté, les pénitenciers. Et il demande que même si on coupait les visites des familiales et des avocats, ben les gardiens entrent et sortent aussi du pénitencier. Là.
C'est ça. Et eux doivent être inquiets aussi, là, tout le personnel là, dans les prisons. Ils doivent demander de l'aide. Je ne sais pas s'il y a des précautions qui sont prises déjà, là, comme à l'hôpital.
Ben, en fait, ce que je comprends, c'est que dans les dans certaines prisons où ils ont ordonné des confinements, le personnel a des mesures de protection, là. Mais dans les pénitenciers, à ma connaissance, il n'y en a pas encore de mesures de protection des gardiens.
Okay.
Et aussi, ce qu'on lit, et je ne sais pas si c'est avéré, mais quand on... dans le journal, on lit que le virus peut rester dans l'air, peut rester sur certains objets.
Mm-hmm.
C'est certain que le nettoyage, c'est pas...
adéquat.
Le nettoyage n'est pas fréquent. Non, mm-hmm. C'est pas un nettoyage qui est fréquent.
Ben, c'est ça. Puis comme vous m'avez dit aussi, c'est une situation qui évolue beaucoup. Vous faites la demande au gouvernement. Je crois que c'est, il faut pas se cacher les yeux. Il faut gérer cette situation-là parce que ça pourrait devenir très problématique. Et j'espère que le message va se rendre. Merci beaucoup, Maître Rita Mangola Francis, de nous avoir éclairé sur ce dossier-là, là, qu'on parle peu durant la crise. Merci, bonne journée.
Merci.
Bye-bye.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2020, quarantaine oblige. On le sait, les directives sont claires. On reste à la maison. Et les écoles sont fermées, on le sait. On en parle un peu partout. Mais moi, je vais parler à quelqu'un qui va pouvoir nous dire comment vont les jeunes en ces temps de crise et comment on gère ça et les dangers qui peuvent les guetter. Avec Cathy Tétrault, directrice du Centre CyberAide. Bonjour.
Bonjour.
Bon, il faut se parler des jeunes. Pas oublier les jeunes. Et là, c'est toute qu'une situation, c'est du jamais vu, ils sont à la maison. À mon époque, non, je fais comme si j'étais vieux, mais je veux dire, pas si longtemps dans le temps, on allait pas mal jouer dehors. C'est une situation comme ça, on aurait passé les journées dehors. Maintenant, les jeunes sont sur les médias sociaux, les tablettes, on a une petite tendance, c'est quasiment une opportunité pour eux d'être en quarantaine, pour certains du moins, pour aller jouer sur la tablette ou jouer à des jeux. Comment tu vois ça? C'est quoi les pièges en ce moment pour les jeunes?
Il y en a plusieurs. On va en aborder quelques-uns, mais ce que je dois dire en premier, c'est que eux ne peuvent pas aller jouer dehors ensemble avec leurs amis.
Non, hein? C'est vrai, c'est vrai. OK. Bon, je comprends.
Oui.
Bon, oui, la tablette, ils ont une fichue bonne raison d'écouter la tablette.
Mais entre frères et sœurs, par contre, ou avec les parents, ben oui, ils peuvent aller jouer dehors. Tu sais, on peut toujours dire que ça peut faire quand même des activités proposées, mais effectivement, moi, je reçois des appels de parents là qui se demandent est-ce que en ce moment, je suis en train d'instaurer une mauvaise routine de vie en lien avec les tablettes. Est-ce que en ce moment, est-ce que je dois continuer à être aussi restrictive ou restrictif là sur l'utilisation parce que là, ils ne permettaient pas la semaine.
Moi, j'ai lâché prise, hein, Cathy, j'ai lâché prise.
C'est ça l'affaire. C'est ça qu'il faut pas faire, mais.
Bon.
Mais j'avoue que, mais oui, surtout si on travaille de la maison, il y a quand même des choses à faire. Mais il faut quand même l'instaurer dans une routine pour que les mauvaises habitudes pour certains enfants qui sont plus vulnérables ne développent pas quelque chose qui, par la suite, va nuire quand il va avoir un retour à l'école.
Oui. Il faut garder des saines habitudes. Moi, j'ai une bonne habitude. Au moins, on va prendre des grandes marches. Là, déjà, ça donne un coup de main. Ça permet de décrocher. Là.
Ça passe un peu le temps. Ça fait du bien aussi. Mais en même temps, tu sais, quand l'été, là, ils n'ont rien à faire, on leur permet pas de jouer là-dessus toute la journée pareil.
Non, c'est vrai.
On s'assure quand même qu'il y a des choses à faire. Alors moi, je pense que malgré l'urgence de ce qui arrive en ce moment, ça va revenir, là. Ça sera pas tellement long d'ici, mettons, 2-3 mois, là.
Mm-hmm.
Que là, tout va revenir. Bien, si ce temps-là, ça se trouve, ça se développe, les mauvaises habitudes. Puis moi, aujourd'hui, Maître Bernier, j'aimerais vraiment parler de deux situations là qui peuvent se développer pendant le confinement. La première, c'est que nos adolescents peuvent avoir certains comportements parce que là, ils n'ont pas accès à leur blonde ou à leur chum.
Ouais.
Ils peuvent avoir certains comportements en lien avec les écrans. S'ils peuvent, bon, ils s'ennuient, ils peuvent pas se voir. Alors, ça peut peut-être les porter, puis je dis bien peut-être, à peut-être s'échanger des petites photos.
Des sextos vidéos. Qu'on appelle.
Oui, exactement. On appelle ça sexting, sexto, sextage. On parle toujours de la même chose. Il y a ça qui
Il y a comme un prétexte, parce qu'habituellement, on avertit les jeunes, ne faites pas ça, c'est des conséquences, c'est ci, c'est ça. Mais là, il y a un méchant prétexte de le faire.
Bien, comme vous dites, là, il y a différentes. Les gens vont s'appuyer beaucoup sur ce confinement-là pour faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Tu sais, on s'entend que la sac est restée ouverte aussi, là. Alors, c'est peut-être pour passer au travers ça, là, avec les émotions. Tout le monde a des problèmes. Là. Mais tu sais, ça aide.
Donc, Cathy, s'ils si fermaient la sac, là, je pense qu'il y avait une révolution. Tous ceux qui ne sortent pas dans les rues, d'habitude, seraient sortis. Quand je dis ça à la blague, il y en a qui aiment leur petit verre de vin ce soir.
Ouais.
Oh oui, il y aurait de la piquette.
Mais tu sais, donc, ce bienfait-là, entre guillemets, quand il n'y a pas d'abus, il y en a besoin, les gens, pour passer au travers quelque chose qui est difficile. Alors, les gens, c'est là-dessus qu'ils vont se défendre. Ils vont dire, écoute, je peux pas voir ma blonde, laisse-moi tranquille, je peux pas voir mon chum, là, ben moi, au moins, là, ça me permet, blablabla, bla, bla. Bon. Mais quand même, on s'assoit avec eux, puis comme on a toujours fait, on peut en parler des conséquences à long terme, parce qu'à court terme, ils voient pas tant, là. Eux autres, ils s'ennuient, puis bon. Alors, on a, au Centre Cybarrette, on a fait un outil pour ça, nous, qui est accessible gratuitement pour les parents.
OK.
Alors, c'est juste d'aller sur le site Internet du Centre Cybarrette, dans la section outils, et puis le projet s'appelle Empathique. Alors, il y a une petite vidéo avec un reportage là, qui a été fait, une quinzaine de minutes, on parle de sextage, on parle quand on offre un sel ou une tablette à nos enfants. Et pour accompagner ça, il y a un petit guide d'une quinzaine de pages là, qu'on a créé pour les parents. Comment parler, de quoi parler, puis comment bien répondre. Puis si notre enfant finalement nous dit, c'est maman, papa, finalement, pendant le temps du confinement, ben j'en ai envoyé une photo, puis là, maintenant, elle circule. Donc, ça dit comment réagir, quoi faire, etc. Alors, ça, c'est la première chose là, qui me
quoi faire, mais est-ce qu'il y a aussi comme la prévention? Puis je veux pas banaliser ça, mais il me semble, j'ai pas des ados, mais je sais pas, je suis pas correct, mais la première chose, je dirais, ne fais pas ça. Puis j'aurais le goût d'y dire, si tu le fais, mets pas ton visage, tu sais, j'aurais le goût d'y dire ça.
Non, mais même pas, parce que c'est facile de retracer une adresse IP, par exemple.
Ouais. Mais je veux dire, un jeune qui se met à la face à tout nu, je sais pas, là, c'est... j'aurais le goût d'y dire, c'est tellement grave, ça, mais au moins, quand tu peux pas la reconnaître, je sais pas. Mais je sais qu'il faut pas le faire, mais j'aurais le goût d'y dire, si tu m'écoutes pas, mets pas ta face là, tu sais.
Ben, faut pas tout à fait interdire non plus, parce qu'ils disent qu'on interdit et t'entends aussi, là. Mais c'est plus de dire, je te laisse le choix. OK? Puis après, tu jugeras, OK, les avantages versus les désavantages. Puis c'est ça qui est important, c'est de l'amener d'une façon où je te passe le message, regarde, on écoute ça 15 minutes ensemble, la docu-fiction. Après ça, on peut regarder, lire un peu ce que ça peut faire comme désavantage dans la vie d'une personne, du témoin ou de la personne qui finalement a envoyé une photo et a distribué un peu partout, ça devient une victime. Alors, ben, les jeunes, on leur fait prendre conscience de ça avec l'information, puis ça se peut qu'après, ils se gardent une petite gêne. On s'entend? Au moins, on essaie de prévenir de cette façon-là. Mais ça dit aussi que si jamais ça a été fait, comment bien réagir aussi, parce qu'il ne faut pas paniquer non plus.
Okay.
Fait qu'il y a vraiment ça, côté sexualité, ado, puis aussi une petite parenthèse pour les enfants plus petits. Ils peuvent être accessibles aussi là avec Instagram, avec TikTok, avec Fortnite, avec, bon, ils peuvent être accessibles par les prédateurs, malheureusement. Alors, là aussi, il y a quand même de l'information. On s'assoit s'il y a quelque chose qui se met mal à l'air.
C'est justement ce que je voulais te parler. Est-ce que c'est un moment favorable, propice à ces prédateurs-là? Est-ce qu'il y a un danger qui est plus grand en ce moment?
Ah, tout à fait. Il y a des moments. Eux autres aussi la suivent, hein, l'actualité. Puis malheureusement, pas parce qu'ils ont des déviances qui sont pas intelligents dans d'autres domaines. Et puis, ils peuvent, tu sais, comme je parle de l'application TikTok, là.
Ouais.
Les jeunes font des vidéos, les petites filles, petits garçons, mais maintenant, c'est utilisé aussi par les ados et par les jeunes adultes. Ils sont allés chercher tout ce public-là. On s'entend-tu qu'au travers, là, on ne sait plus qui est qui, parce que c'est facile de encore là de s'ouvrir un faux compte.
Ah.
Alors, on permet ça. Il faut premièrement aller voir si les vidéos sont partagées à tous, que notre enfant fait. Il faut aller voir, par exemple, si notre enfant game à Fortnite ou à Minecraft ou à même à des jeux en ligne. Il faut aller voir si notre enfant a des conversations. Lui pense que ça peut être un autre enfant, mais nous, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, il faut aussi dire à notre enfant, si tu reçois une demande, je ne sais pas moi, ton mot de passe, ou si la personne te demande, as-tu d'autres comptes, Facebook, Snapchat, non. Tu sais, s'il y a comme une insistance à savoir qui tu es, ta vie, ton nom, viens m'en parler, puis je t'enlèverai pas le droit d'utiliser l'application, mais au contraire, là, je vais dire, tu sais, heureusement, mon enfant va m'en parler, s'il vit des choses, puis si on voit que c'est malsain ou il y a quelque chose qui cloche, ben on communique avec la police pour dire, il y a quelqu'un qui tente d'avoir mon enfant, là, de leur, tu sais. Donc, c'est important de toujours vérifier ça pour la sexualité.
Ouais.
La deuxième préoccupation que j'ai en ce moment, c'est l'utilisation abusive des écrans, c'est-à-dire trop d'utilisation des écrans. On ne parle pas de cyberdépendance qui peuvent se développer en un mois, malgré qu'il y en a qui l'ont, mais on parle d'une mauvaise habitude qui peut se développer, puis ça peut nuire par la suite qu'on essaie de retomber dans...
Puis d'ailleurs, c'est ça, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a moyen de vérifier si on est devenu cyberdépendant, je pense que vous avez...
Bien, l'affaire, c'est que nous, on a fait... moi, plutôt, là, j'ai écrit un livre qui propose un questionnaire, un test de cyberdépendance de conscientisation.
Okay.
Et ce test-là est accessible gratuitement. Pas le livre, mais le test. On peut l'avoir... Oui, le test sur le site Internet des éditions Méditrante.
Okay.
Vous allez dans outils gratuits, puis vous pouvez le télécharger.
Donc, c'est édition.
Oui, c'est les éditions Méditrante. C'est Méditrante. La maison d'édition qui ont.
On peut googler ça, là, puis on va tomber dessus, là.
Ben, si oui, mais on va dans outils gratuits, puis ils l'ont mis là-dedans aussi.
Bon.
Si les gens ne le trouvent pas, peuvent écrire au centre CyberAide. Si vous allez sur le site Internet, puis je vais leur faire parvenir, moi.
Okay.
Mais
pour les parents inquiets, il peut y avoir un test. Peut-être le faire passer après la crise. Non, je fais des blagues là-dessus parce que c'est tellement... On vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est devenu un outil de passe-temps assez incroyable. Puis effectivement, après, il va falloir se poser des questions. Soyons vigilants quand même. tout le temps qu'on avait, désolé, mais merci beaucoup, Cathy Stétro. Puis en tout cas, on lâche pas, puis on va passer au travail.
On va penser à notre santé.
Oui, certain. Bye-bye.
Merci beaucoup. Au revoir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Cette semaine, le gouvernement Trudeau a annoncé là, qu'il se servait de la loi sur la mise en quarantaine, une loi qui gère les frontières qui est déjà appliquée. Si quelqu'un se présente avec des symptômes, on pouvait, par ordonnance, lui le forcer d'être en quarantaine. Mais là, il se sert de cette loi-là, dans la portion urgence, pour appliquer ça à tout le monde. Une condition pour rentrer au pays, vous mettez en quarantaine 14 jours, c'est obligatoire. Il y a des conséquences assez drastiques, on va en parler dans peu de temps. Mais on va essayer de faire la lumière sur tout ça, hein, parce qu'il y a la loi provinciale, on a déclaré l'état d'urgence sanitaire avec la loi sur la santé publique. Il y a des amendes, c'est tout ça qui gère, bon, les rassemblements, donc il y a des ordonnances. On ne peut pas se rassembler, sinon il y a des amendes. C'est une portion. La loi sur la quarantaine, bon, que je viens de dire, c'est pour l'entrée au pays avec ces conditions-là et des sanctions, même d'emprisonnement. Et également, il y a la loi sur les mesures d'urgence fédérales qui, là, donnera encore plus de poids. On essaie de démêler tout ça. J'ai besoin d'aide. Je suis avec notre chroniqueur Jean-Paul Boily qui est avec moi en studio à 2 mètres.
À distance.
En respectant les consignes.
Et puis, je finis ma quarantaine. J'ai fini ce midi, ouais, d'ailleurs. Donc, parfait, on peut se parler maintenant, mais à distance pour suivre évidemment les directives. Parce que il y a des lois, et ces lois-là qui ont été adoptées, on n'est pas là pour faire peur au monde, M. Bernier, mais on est là pour expliquer que c'est sérieux. Mm-hmm. On est là pour montrer que la nouvelle loi qui vient d'être adoptée par le Parlement fédéral, qui est la loi sur la mise en quarantaine des gens qui rentrent au pays, et même ceux qui sortent, parce que ceux qui sortent, ils vont rentrer. Alors, ça fait en sorte là que c'est les droits fondamentaux là, qu'on a dans nos chartes puis dans la Constitution canadienne, ben dans les poubelles pour l'instant, parce que c'est maintenant une pandémie et on veut contrôler quelque chose qui on le voit pas. Hein. C'est un peu comme du terrorisme. Là. C'est un virus qu'on voit pas, on peut pas le savoir. Si vous avez des symptômes, vous savez même pas que vous en avez des fois. Alors,
moi, je l'appelle le tueur invisible. Là. Je mets ça grave, mais c'est... On se bat contre quelque chose qu'on voit pas.
Là. Exactement, on le sait pas. Puis donc, on prend des mesures. Et là, ce qu'on veut dire aux gens cette semaine, j'en ai parlé avec Martineau à son émission, là, Richard Martineau, c'est pas de faire peur au monde, mais la loi qui a été adoptée, elle a des dents. Et si on veut pas que ce genre on va restreindre les droits des gens, parce que la loi sur la quarantaine, on va expliquer un peu c'est quoi, là. C'est ouais, vraiment des pouvoirs extraordinaires. Il y a des pouvoirs d'arrestation sans mandat. Hein? Ça veut dire que, Maître Bernier, si vous avez fait quelque chose en arrivant aux douanes qui fait en sorte que l'agent de contrôle, qui est là, qui est l'agent de douane, qui est appelé l'agent de contrôle dans la loi, décide que non, vous allez être mis de côté. Il peut vous garder jusqu'à 7 jours. Pas de mandat, rien, là. Alors, mm-hmm, ça, là, c'est des pouvoirs extraordinaires. Il peut vous forcer à avoir des traitements. Il peut vous forcer à aller en quarantaine. Alors, ces mesures-là, ça va à l'encontre de toutes les chartes et tous les droits constitutionnels, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est fait en cas de crise, et on est là. Donc, si on ne veut pas se rendre, parce que vous avez parlé tantôt de la loi sur la sécurité publique...
Expliquons-la. Ça, c'est une loi qui était déjà en vigueur, qui était déjà là, la loi sur la mise en quarantaine. Ouais. On a émis un décret pour mettre une condition à l'entrée au pays. Ça, c'est exact, ce qui gère l'entrée au pays.
C'est ça.
Mais parlons-en, là. La loi, c'est les mesures d'urgence fédérales, ouais, qui donnent là encore plus de pouvoir, pas seulement c'est sur l'entrée au pays,
non,
mais dans notre quotidien.
Ah, ça, c'est le quotidien. C'est l'équivalent de l'ancienne loi des mesures de guerre qui a été modifiée, amendée dans les années 80 pour faire en sorte que là, dans les cas, on en a parlé à l'émission la semaine dernière, dans les cas de sinistre, ce qui est un cas dans une pandémie, c'est un sinistre. Je prenais à Radio-Canada cette semaine une journaliste que je nommerai pas, là, qui n'est pas avocate malheureusement, mais qui n'avait pas bien lu la loi, puis qui elle disait, ben non, la section sinistre, ça ne s'applique pas. Je m'excuse, madame, mais c'est exactement cette section-là qui s'applique dans la loi. Si on la met en vigueur, ben là, ça veut dire que c'est pas juste dans les aéroports, c'est partout où ces droits fondamentaux-là qu'on a seront éventuellement, puis sans faire peur aux gens, mais seront coupés parce que on veut stopper cette pandémie-là, puis c'est une question d'urgence nationale, même internationale. Alors, on va prendre les moyens. Si les gens veulent pas écouter, puis là, on a prêté une étape cette semaine, après la loi sur la sécurité publique au Québec, là, c'est la loi sur les mesures de quarantaine qui a été adoptée, mais qui ce sont des mesures extraordinaires. Il faut que les gens comprennent que c'est sérieux, l'affaire, là. Mm-hmm. On peut pas dire... On parle d'amende, puis d'emprisonnement, M. Bernier, on en a parlé.
Le gouvernement Trudeau applique la loi, ses mesures d'urgence. Là, on pourrait... C'est cette loi-là, dans le fond, qui ferait comme en Italie, où est-ce qu'on dirait aux gens, vous restez chez vous, à la maison, à moins que vous ayez une autorisation pour aller faire l'épicerie ou des choses comme ça.
Mais c'est parce que la loi sur les mesures d'urgence comme telle va faire en sorte que la loi sur les mesures de mise en quarantaine qui est présentement adoptée va être beaucoup plus large, parce que là, les mesures qu'on peut prendre contre les gens qui arrivent au pays.
On ça va les venir cette... contre tout le monde.
Contre tout le monde. Ouais. Et puis là, ben, ça devient évidemment là, les droits constitutionnels et tout ça, comme je disais tout à l'heure, oubliez ça. Là. On n'en parle plus. Les droits individuels ne comptent plus. Ce sont les droits collectifs qui comptent. Et puis là, ben, ça, on décide de, on peut arrêter quelqu'un sans mandat. On peut faire, on peut ordonner, parce que la loi sur la mise en quarantaine, la ministre a dit, là, qui est la nouvelle la ministre, en fait, de la Santé, que tout le monde connaît au Canada, mais que personne n'a jamais vu. Mais elle peut ordonner qu'une entreprise décide que cette entreprise-là est réquisitionnée parce qu'on en fait un hôpital, ou elle va ordonner, par exemple, elle peut ordonner, je ne dis pas que ça va se faire, mais elle peut ordonner en quelque part à une entreprise de faire des biens et services essentiels, par exemple, de fournir des mitaines, des gants, des masques, etc. Elle pourrait aller jusque-là.
Comme à la guerre,
c'est la même chose. Sauf que là, pour l'instant, c'est limité aux gens qui rentrent au pays, que ce soit par bateau, par avion, par Winnebago. On a vu même des gens cette semaine s'en aller au Costco alors qu'ils arrivaient des États-Unis avec le Winnebago. Plus stupide que ça, tu meurs. Là, non, c'est donné, ça. Là, faut que...
Mais on va en parler de ça. Parce que, bon, on n'est pas rendu là encore. Le gouvernement provincial, le premier ministre Legault le disait, et le directeur de la santé publique, M. Arruda, recommandent des choses. Bon, ils ont ordonné des choses comme ne pas se réunir et là, ils sont intervenus même en donnant des amendes. Mais quand même, ils recommandent aux gens, bon, de ne pas sortir, de ne pas se fréquenter, de
distance
ne pas
sociale.
De se distancer. Et là, on regarde un peu les gens aller, puis il s'agit d'aller dehors pour se rendre compte qu'il y a bien du monde qui s'en foutent un petit peu.
Qui respectent pas ça.
D'ailleurs, l'Italie a fait ça aussi. Les Italiens sont assez relax en mentalité. Hein? Puis il y a même un maire, les maires, qui sortaient dans la rue dire aux gens, « Hey, c'est pas des blagues ce qu'on dit, c'est réel, ça arrive. Ouais. » Mais là, ici, là, je vous pose la question, M. Boily, on fait tellement d'efforts en ce moment pour éviter cette propagation-là, mais on sent qu'il y a des gens récalcitrants. Là,
il y en a
beaucoup, là. Qu'est-ce qu'on fait pour... Est-ce que ça prend le bâton? Tu sais, on dit un bâton, bien, la carotte, là,
ben oui,
pas la carotte.
Ben...
Est-ce qu'on est rendu là d'ordonner le confinement
et
de mettre des sanctions pour des gens qui sortent pour n'importe quoi,
vous savez,
n'importe quand?
On le dit, Maître Bernier, on le dit à l'émission ad nauseam depuis le début. Les lois, les règlements, c'est fait pour les imbéciles. Si tout le monde était intelligent, tout le monde agissait correctement, tout le monde agissait de la bonne façon, il n'y en aurait pas. Alors là, la loi sur les mesures d'urgence, éventuellement, elle va peut-être être promulguée parce qu'il y a des imbéciles. Je vous entendais cette semaine avec Richard Martineau, là, qu'il vous parlait des bobs de ce monde là, qui s'en vont à l'encan acheter leur toupie ou je ne sais pas trop quoi. Je veux dire, il faut ces gens-là qui ne sont pas conscientisés, ben, ça va leur prendre des lois, comme ça prend des lois pour faire respecter l'ordre ou faire respecter n'importe quoi dans la vie, parce que les gens sont pas capables, des fois, sont obligés de se faire dire quoi faire parce qu'ils sont pas capables d'agir intelligemment. C'est plate, mais c'est comme ça. Il y a des jeunes qui se réunissent. On a vu à Gatineau quelqu'un qui a eu une amende de 1 000 Ben moi, j'applaudis.
Ben 1 000 étant le minimum, il
aurait pu donner 6 000. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que un moment donné, allez-vous comprendre que c'est sérieux, qu'il ne faut pas se regrouper, qu'il faut garder des distances
d'ailleurs,
sociales.
D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas tant se fier aux autres que d'appliquer nous-mêmes les mesures, se laver les mains, se tenir plus loin.
Ouais.
Et ça nous appartient. Puis d'ailleurs, je me suis fait tirer quelques roches cette semaine, ce que j'ai écrit, disant que Legault, j'ai demandé aux gens, est-ce qu'il est allé trop loin en fermant systématiquement les entreprises?
Ouais.
Ce que je voulais dire, c'était de fermer sans répartie.
Exact.
Par après, il écoutait un peu ce que j'ai écrit, il est revenu en ajustant certaines choses.
Exactement.
Même les cabinets qui n'étaient pas un service essentiel, là, tout ça. Bon, mais moi, jamais j'ai dit qu'il fallait mettre l'économie avant la vie humaine. Je ne suis pas de ceux qui disent ça. Par contre, il fallait faire le débat. Mais ce que je dis aussi, puis je le redis encore, c'est que... oui, fermer les entreprises, mais toutes ces mesures-là de distanciation ne servent à rien
si les gens l'écoutent
pas. Si les gens dans leur quotidien, ne les respectent pas. Oui. Et comme je dis, on en voit beaucoup qui ne les respectent pas.
L'usine est fermée, puis qu'à la place d'aller à l'usine, tu fais un party avec tes chums le soir, excuse-moi, c'est pas intelligent. C'est alors, pas c'est mieux. Pareil, les gens qui fréquentent, oui, si vous pouvez rester en famille, mais si vous allez fréquenter des gens qui sont allés ailleurs, le virus, lui, il voyage, il attend pas à la porte. Là. Alors, il faut garder ces distances-là. Puis si vous avez raison de dire que si on prend des mesures qu'on les respecte pas, ben ça donnera pas rien parce que même si on ferme toutes les usines, si les gens continuent à se regrouper ou les personnes âgées sortent, parce qu'on comprend qu'il y en a qui vont bon prendre des marches à distance, ça va, mais faut respecter les consignes parce que c'est qu'un début, hein, on le sait là, ça monte de jour en jour, on voit y a des cas de plus en plus, puis je pense que là on est rendu là, si on veut pas avoir encore plus de contraintes légales, faut respecter les consignes.
Bon. Le message est passé, on le dira jamais assez. Merci, Maître Boily. On se reparle demain pour un autre dossier. On va parler justement de dénoncer les autres là, quand on voit ce genre d'aberration-là. Merci, Maître Boily. Bonne journée.
Préparez vos questions.
Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
Cube Radio. 1-877-827-2346.
C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain. Soyez à l'écoute. On va répondre à vos questions que vous pouvez poser au 187 Cube Radio. Et sinon, des sujets très intéressants, dont la garde partagée durant la crise. Soyez là demain. Bye-bye.